Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit : « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit : « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit : « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué : « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué : « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. »
Combien de fois ont-ils fait le tour de la ville pour que les murailles s'écroulent? Plusieurs fois. Ben, tu te mouilles pas, hein. 13 fois, hein. Une fois par jour pendant six jours, et 7 fois le 7e, donc ça fait 6 et 7, 13. Voilà. Bon. Alors. Revenons un petit peu dans le contexte. Nous savons, connaissons un petit peu l'histoire du peuple d'Israël. Ils ont été pendant 400 ans en Égypte, esclaves des Égyptiens. Et ensuite, sous la conduite de Moïse, ils sont sortis d'Égypte. Moïse, enfin, Dieu a ouvert la mer Rouge, n'est-ce pas? Et ils sont entrés dans le désert. Et Dieu voulait ensuite les faire entrer dans le pays de la promesse. Voilà, c'était ce que Dieu voulait pour Israël, les faire sortir de l'esclavage pour ensuite les faire traverser le désert pendant 11 jours. À l'origine, c'était pendant 11 jours. Il fallait simplement 11 jours pour traverser le désert et ensuite passer le Jourdain et entrer dans le pays de la promesse. Tout cela nous est dit dans l'Ancien Testament, parce que ça nous apporte un enseignement spirituel pour nous. Nous allons le voir tout à l'heure. Mais malheureusement, le peuple d'Israël, quand il est rentré dans le désert, eh bien, il a eu peur, et pendant les quelques difficultés, ils ont murmuré. Ils ont été incrédules, ils ont murmuré. Et à cause de leur incrédulité, eh bien, au lieu de passer quelques jours dans le désert, ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Et toute cette génération est morte dans le désert par incrédulité. Et ce n'est que la génération suivante qui a pu entrer dans le pays de la promesse. Pourtant, dans le désert, ils avaient la manne qui tombait du ciel tous les jours. C'était comme un gâteau de miel, des flocons, comme des gâteaux de miel qui tombaient tous les jours pour leur nourriture. Quand ils ont eu soif, eh bien, Moïse, en frappant le rocher, eh bien, le rocher a donné de l'eau et ils ont pu se désaltérer tous les jours. Et pendant 40 ans, il y a eu des miracles. Il nous a dit que pendant 40 ans, leurs vêtements ne se sont point usés. C'est quand même miraculeux. Bon, aujourd'hui, je crois que les jeunes, en tout cas, n'aimeraient pas porter pendant 40 ans les mêmes habits, bien sûr. Mais à l'époque, dans le désert, il n'y avait rien. Eh bien, il y a eu ce miracle-là. Et ils nous ont dit aussi, ça c'est important pour les personnes peut-être plus âgées, que pendant 40 ans, malgré la chaleur et la marche, leurs chevilles, leurs pieds ne se sont point enflés. C'est-à-dire, ils ont toujours été en bonne santé. C'était quand même quelque chose de... du miraculeux, c'était quelque chose, c'était vraiment des bénédictions. Mais, si vous lisez cette histoire, vous verrez que le peuple d'Israël, eh bien, un jour ils avaient soif, ils ont murmuré, Dieu leur donne à boire, ils ont été contents, puis deux jours après ils ont recommencé, ils étaient toujours en train de murmurer, toujours en train d'être incrédules, et ils sont passés ainsi, ils sont morts tous dans le désert. Et ce n'est, je le répète, que la génération suivante qui est entrée dans le pays de Canaan. Et à ce moment-là, donc quand nous lisons ce texte, la nouvelle génération, sous la conduite de Josué, j'espère que vous suivez maintenant, sous la conduite de Josué, va entrer dans le pays de la promesse qui avait été promis à Abraham, le pays de Canaan. Ils ont traversé le Jourdain, mais voilà, ils se trouvent devant un obstacle insurmontable. C'est pas une montagne, c'est pas un abîme, mais c'est une ville. La ville de Jéricho, une ville fermée, barricadée, une ville imprenable qui se dresse devant eux et qui bloque la progression du peuple. Alors, j'essaie d'interpréter pour nous-mêmes. Autrefois, nous étions esclaves du péché. Nous avons été libérés du péché. Nous sommes passés au travers de la mer Rouge, c'est-à-dire nous avons été purifié par le sang de Jésus. Et il nous est dit dans Deutéronome que, comme le peuple d'Israël, après la conversion, nous avons un temps d'épreuve où Dieu veut voir si nous sommes vraiment résolus. Dieu veut pas être, comme disait Nicolas, comme le Père Noël qui répond à chacun de nos caprices. Mais Dieu veut nous éduquer, Dieu veut nous bénir, certes, mais il veut nous éduquer afin que nous progressions et que nous venions des enfants dits de ce nom, de ces enfants, des adultes spirituels. Et après un temps de désert, après un temps de difficulté, Dieu veut que nous entrions dans le pays de la promesse, c'est-à-dire le pays où il y a vraiment la bénédiction de Dieu, et où nous pouvons entrer dans le combat spirituel, nous pouvons entrer dans une dimension beaucoup plus grande, que nous soyons des chrétiens épanouis, des chrétiens adultes. Mais voilà que, parfois, peut-être une première fois, mais aussi parfois, il y a des Jéricho qui se dressent devant nous. Nous sommes bien partis, nous sommes des chrétiens qui aimons le Seigneur, nous sommes purifiés, nous sommes sauvés, il n'y a pas de problème, nous avons traversé un moment de désert, et puis, au moment où il semble que tout est bien, que enfin nous pouvons aller de l'avant, se dresse une ville fortifiée, un Jéricho. Quelque chose qui nous barre le chemin, qui nous interdit d'avoir accès à quelque chose de plus grand. Et alors, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, eh bien nous risquons de rester dans le désert, de errer dans le désert pendant des années et des années. Et des chrétiens qui errent dans le désert pendant des années, qui sont comme des mendiants, qui n'arrivent pas à obtenir quoi que ce soit parce qu'il y a en eux l'incrédulité, le doute, parfois la révolte, bien c'est triste. Dieu veut que dans ce Jéricho qui se présente, nous ayons la victoire. Qu'est-ce que c'est Jéricho pour nous? Ça peut être un conflit personnel. Ça peut être dans mon cœur quelque chose que je n'arrive pas à pardonner. Et ça peut être le péché, un péché qui est là et qui prend toute la place. Ça peut être des oppositions extérieures. Ça peut être des situations difficiles. Quelque chose qui fait barrière à notre vie spirituelle. Et je ne sais pas, je ne peux pas donner beaucoup d'exemples, mais je pense que peut-être pour chacun d'entre nous, vous sentez dans votre cœur qu'il y a quelque chose qui fait barrage. Il y a quelque chose qui arrête. Il y a comme si, vous savez, quelqu'un qui est en bateau qui veut ramer, il rame pendant des heures et il n'avance pas. Pourquoi? Parce que il n'a pas coupé la mare. Son bateau est toujours attaché et il a beau ramer pendant des heures, il n'avance pas. Eh bien, il faut que la corde soit coupée, il faut que le nœud soit coupé. Et pour nous, il faut parfois quand ça arrive, que le Jéricho qui se dresse devant nous, qui nous paraît impressionnant, qui nous paraît comme une montagne, il faut qu'il y ait cette victoire. Alors vous allez me dire, bien moi je vais vous dire, je vais vous demander, où est le champ de bataille? Le champ de bataille, vous allez me dire, c'est Jéricho. Alors, bien sûr, ils sont là, et il y a les murs de Jéricho, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y avait deux murs de 9 mètres de haut. Alors, quand ils se sont trouvés devant les murs de Jéricho, certains peut-être ont voulu prendre des pioches pour commencer à piocher, d'autres ont voulu faire des escaliers ou des échelles pour passer par-dessus. Mais le champ de bataille n'était pas là. Le champ de bataille était auparavant. Le champ de bataille était lorsque Josué a eu la visite de l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, pour nous, représente Jésus. Il y a eu cette rencontre entre Josué et l'ange de l'Éternel, et l'ange lui a dit, voilà, enlève tes chaussures parce que le lieu sur lequel tu marches est un lieu saint. Et c'est certain que nous avons besoin, devant les difficultés, non pas d'affronter directement la difficulté avec nos propres forces physiques, intellectuelles, avec notre réflexion humaine, mais nous avons besoin, et nous voyons souvent Moïse ainsi, quand il était dans la difficulté, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans la tente et il priait. Il ne réagissait pas quand il y avait de l'opposition. Il ne réagissait pas en disant, c'est moi qui commande, c'est moi le chef, ceci, cela. Ou là, il y avait de l'opposition ou autre. Qu'est-ce qu'il faisait, donc? Il n'affrontait pas directement, il se réfugiait dans sa tente, il priait. Et c'est Dieu qui intervenait. Et c'est ainsi que nous avons besoin, comme Josué, de nous tenir devant Dieu. Et c'est Dieu qui donne la victoire. Premièrement, marcher dans la sainteté, c'est une chose, pour pouvoir avoir ce contact avec Dieu. Ce tête-à-tête avec Dieu. Et cette parole, voilà, eh bien, tu feras le tour de la ville pendant 6 jours, une fois par jour, et le 7e jour, 7 fois, et la montagne s'écroulera. Qui aurait pensé à cette solution? Si Josué avait demandé à ses soldats, qu'est-ce que je dois faire? Il aurait demandé à ses généraux, qu'est-ce que je dois faire? Certains auraient dit, ben, tu mets le feu au bas de la muraille, etc. Fais toutes sortes de choses. On va inventer une sorte de canon, de la baliste, pourquoi, pour lancer des pierres. Enfin, bon. Hein? Bon. C'était pas ça du tout. Il n'y avait pas de solution. Mais, le champ de bataille avait été avant. Le champ de bataille n'est pas sur le lieu, n'est pas avec, peut-être avec la personne, précise ou avec la situation précise devant le nez, parce que là on est complètement bloqué, on est aveuglé, mais c'est avec le Seigneur. Et il y a quelque chose quand même qui est particulier, c'est que quand on demande à Dieu de nous aider, d'enlever ce Jéricho, eh bien Dieu a souvent des stratégies qui sont complètement à côté de ce que nous pourrions penser. Notre réaction, c'est de réagir avec notre sagesse humaine, avec nos expériences passées, avec nos succès passés, en disant, ah, tiens, dans le temps, c'était comme ça, mais j'ai réagi comme ça, ça a été. Non! Parce que nous voyons dans la parole de Dieu, dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 24, on va pas le lire, mais qu'un jour, David a eu des problèmes, les Philistins sont venus, et il a demandé à Dieu, est-ce que je vais les combattre? Et Dieu lui a dit, oui, on va les combattre. Et il est allé les combattre, et les Philistins ont été vaincus. Peu de temps après, les Philistins sont revenus de la même façon, et David a eu la sagesse de reprier. Il n'a pas dit dans sa tête, ben, c'est comme la première fois, pas de problème. Non, il a reprié, et cette fois, Dieu lui a dit, à son détournement, à David, ne va pas les combattre. Tu vas à tel endroit, et lorsque tu entendras le bruit d'un pas dans les cimes d'un arbre, des arbres, des mûriers, drôle de façon, lorsque tu entendras des bruits de pas dans les cimes du mûrier, eh bien là, tu combattras. Le bruit de pas, ça veut dire que c'était spirituel. Il y avait l'armée de Dieu qui était là. Et c'est ainsi que David a eu la victoire. Mais s'il avait réagi en comptant sur son expérience, il aurait été vaincu. Rappelez-vous l'exemple de Gédéon. Quand Dieu lui a dit de délivrer Israël des Madianites, qu'est-ce qu'il a fait Gédéon? Il a réuni 32 000 soldats. 32 000. Puis Dieu est intervenu, il a dit non, non, non. Et au bout du compte, Dieu lui a laissé combien? 300 soldats. Gédéon a dit, là, vraiment, il n'y a que Dieu qui, il y a que les armes sur lesquelles je peux compter. Hein, il a dit, là, je prends des super armes, hein, aujourd'hui, on aurait dit des Kalachnikov ou autre. Là, je prends des armes formidables, on va prendre des épées, des lances, et Dieu lui a dit, non. Comme arme, tu auras des cruches, des flambeaux, et des trompettes. Et c'est avec cela, vous connaissez l'histoire, à un moment donné, les trompettes ont sonné, ils ont brisé les cruches, les flambeaux ont été donc mis à la lumière, et le peuple d'Israël a été vaincu. Quand, je prends un autre exemple, quand Naaman est venu voir, le prophète est venu voir Naaman qui était lépreux. Naaman, c'était un général syrien, très important. Quand le prophète est venu à parler, il s'est dit, le prophète va venir, et il va imposer les mains, il va faire une grande cérémonie, une grande prière, et je serai guéri de ma lèpre. Non, c'est même pas le prophète qui est venu. Il a envoyé quelqu'un dire à Naaman, trempe-toi 7 fois dans le Jourdain. Naaman a réagi en colère. Il a dit, mais attends, je suis pas un gosse pour me plonger 7 fois dans le Jourdain. Et ses soldats ont eu la sagesse de lui dire, mais si on t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Il a dit, oui, eh bien fais-le. Vous voyez, donc, il y a des solutions que nous ne pouvons pas trouver par nous-mêmes, mais c'est Dieu qui suscite en nous, par sa parole, par ce souffle fragile dont nous avons parlé, dont nous avons chanté tout à l'heure, ces paroles qui doucement se font sentir en nous, entendre en nous, et qui nous dirigent avec précision pour que nous ayons la victoire. Alors, dans cette stratégie particulière au siège de Jéricho, je voudrais donner quelques précisions. Je voudrais revenir sur un texte que nous trouvons dans 2 Chroniques, chapitre 20, c'est l'exemple de Josaphat. C'est 2 Chroniques, je ne l'ai pas donné, mais on va le citer simplement. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 22-23, le roi Josaphat a été en grande difficulté. Et une armée immense est venue pour l'assaillir. Et qu'a dit Dieu à Josaphat? Josaphat a dit, moi je vais intervenir, c'est moi Dieu qui vais intervenir. Alors, allez de l'avant, les trompettes, mettez le peuple qui crie les louanges de Dieu, et vous avancez ainsi dans la louange, vous avancez au son des trompettes, et à ce moment-là, quand ils se sont avancés, Dieu est intervenu, et là, les ennemis se sont tués entre eux. Ça, c'est la puissance de la louange. Et c'est vrai que quand nous sommes en difficulté, lorsque nous sommes découragés de la tristesse, il est bon de louer le Seigneur, il est bon de lire des psaumes de louange, de le louer de tout notre cœur, c'est-à-dire que nous luttons contre l'incrédulité, nous luttons contre la peur, la crainte, nous louons le Seigneur et cela nous fortifie et Dieu intervient. Mais, ce matin, je voudrais vous dire que ce n'est pas toujours aussi simple. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans le passage de Jéricho, Dieu n'a pas dit, c'est pas difficile, vous faites le tour de Jéricho, vous louez le Seigneur, vous me louez, vous glorifiez Dieu, et j'interviens comme ça. Il aurait très bien pu faire tomber les murailles le premier jour, en disant au peuple de louer, en disant au peuple de, de le magnifier, de dire que c'était un Dieu puissant. Non. Et si, si Jésus avait fait ça de lui-même, il n'y aurait pas eu de résultat. Mais Dieu a dit tout d'abord, pendant 6 jours, vous allez faire le tour, en restant silencieux. Il n'y a que les trompettes qui sonneront, les trompettes retentissantes. Le son des trompettes nous parle de l'action du Saint-Esprit. Les trompettes nous parlent de l'action du Saint-Esprit. Quand les trompettes sonnent, lorsque le Saint-Esprit, il y a un chant, je ne sais pas si on le chante plus, mais c'était écoutez les trompettes d'argent. C'est-à-dire écouter ce que Dieu nous dit par son esprit, par sa parole au travers de son esprit. C'était pas 6 jours de silence en disant, bon, allez, on va marcher, allez, vite, vivement ce soir, on va aller casser la croûte et puis dormir et puis demain on va recommencer. C'était pas simplement marcher en silence, mais dans cette marche, il y avait un travail qui se faisait dans les cœurs. Le premier jour, certains, d'ailleurs, c'est un miracle que tout le peuple a obéi. Parce que dans le désert, peut-être, ils n'auraient pas tous obéi. Vous vous rendez compte, faire 6 fois le tour de la ville, ou 13 fois le tour de la ville, mais les habitants du Jéricho, ils ont dû rire pendant un sacré bout de temps, hein. Le premier jour, enfin, pendant tous les jours, les habitants de Jéricho devaient rire. Ils devaient leur lancer des pierres, ou n'importe quoi. Mais, il y avait un travail. Il fallait que, peut-être dans certaines personnes, il y avait le doute, la crainte, la révolte, c'est quoi, on nous prend pour qui, on nous prend pour des enfants, c'est quoi ce Josué, il dit que c'est Dieu, mais quoi. Et je pense que pendant 6 jours, dans le cœur de ces gens, il y a eu une bataille. Et je dirais que avant que la muraille de Jéricho tombe, il fallait que dans le cœur de ces hommes, de ces femmes, des murailles tombent. Et Dieu agissait par son esprit. Certains disaient, oui, mais moi je suis pas, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas la paix, qu'est-ce qui se passe, oui, il y a eu toutes sortes de choses. Il y a parfois, nous sommes assaillis par toutes sortes de pensées. Mais c'est bon parfois de marcher un petit peu, de rester dans le silence, d'être forcé de rester dans le silence et de sentir ce qui se passe dans notre cœur. C'est trop facile d'allumer la télévision, c'est trop facile de faire n'importe quoi pour éviter que toutes ces réflexions se passent dans notre cœur. Mais là, ils étaient obligés de se taire. Parce que s'ils avaient parlé, peut-être certains se seraient liés par des paroles. Parce qu'on peut se lier par des paroles de découragement, on peut se lier par des paroles de révolte, des paroles qui négatives et qui sont contagieuses. Mais là, ils étaient face à eux-mêmes. Ils étaient obligés de faire le tour, non pas simplement de la ville, mais le tour de leurs problèmes. Il y a un verset qui dit dans Ecclésiaste que pour nous montrer quand même l'importance de nos paroles et de nos pensées. C'est dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 20, je le cite, là je ne l'ai pas marqué, marqué, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Ne maudis pas le riche par des paroles, parce que l'oiseau ailé porterait ta voix, l'oiseau du ciel porterait ta voix, et l'animal ailé publierait tes paroles. C'est marqué même si tu prononces ça dans ta chambre. Donc si je maudis quelqu'un dans ma chambre, qui l'entend? Personne. Et si? L'adversaire l'entend. Il y a quelqu'un qui entend. Et ce qu'on peut dire, même dans nos pensées, qu'on dit par nos paroles, eh bien, quelque chose d'important. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans le livre de Job, Job dit, je mets la main devant la bouche, parce que il sentait qu'il y avait des mauvaises paroles qui allaient sortir vis-à-vis de Dieu. Il a dit, bien, je mets la main devant la bouche pour ne pas prononcer des paroles. Et c'est pour ça que Dieu a eu la sagesse de dire au peuple d'Israël, pendant 6 jours, taisez-vous. Taisez-vous. Au moins comme ça, vous ne direz pas de bêtises. Vous ne direz pas de choses négatives et vous n'allez pas vous lier par vos paroles. Mais laissez le Saint-Esprit agir dans votre cœur. Il y a donc la louange, c'est important, mais il faut que la louange soit faite dans les bonnes conditions. Si chaque fois qu'il y a un petit problème, je dis, ah, moi, c'est facile, je loue Dieu, et tout s'en va. Mais c'est pas une méthode. C'est pas une méthode humaine. C'est pas quelque chose qui est automatique. Il faut que ce soit sous l'instigation du Saint-Esprit, au travers de la lecture de la parole de Dieu, quand la trompette sonne, pour que nous puissions mettre notre vie en question, on le fait. Et quand la trompette sonne, comme elle a fait pendant le 7e jour, alors nous pouvons louer le Seigneur parce que il y a une libération et notre cœur est prêt à le faire. Et au bout du 7e jour, quand ils ont loué le Seigneur, ils l'ont fait de tout leur cœur. Des murailles intérieures qui doivent tomber. Un travail intérieur qui doit se faire. Il y avait eu l'exemple de leurs parents qui étaient morts dans le désert. Il fallait pas que pour eux ça passe pareil. Mais Dieu a été obligé de leur faire passer par ce test, par cette situation précise, afin qu'ils ne tombent pas dans le même piège, mais qu'ils se mettent devant Dieu, et qu'ensuite ils puissent le louer. Nous commençons par louer, je disais, parfois nous commençons à louer en disant, ben, si je loue le Seigneur, de toute façon ça va marcher. C'est comme si un enfant disait à ses parents, de toute façon, moi, si je te dis ça, maman, t'es gentille, ou papa, ceci, ça marche. Oui, ça marche, mais les parents vont dire, attends, faut pas non plus que ce soit une formule magique, faut pas que ce soit simplement ça pour que ça marche. Il faut aussi que je sache que derrière les paroles, il y a une vérité. Il y a, n'est-ce pas, il y a vraiment un amour, il y a aussi une bonne communication. Donc, je ne vais pas allonger plus que ça, je vais arrêter là parce que j'ai que ça à dire, mais je pense que ce qu'on peut faire maintenant, c'est rester un moment dans la prière. Et nous dire, enfin vous le savez très bien, mon Jéricho c'est ça, mon problème c'est ça. Bon, j'ai loué le Seigneur plusieurs fois pour que ça marche, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait le tour du problème pendant quelque temps devant le Seigneur. Je n'ai pas laissé le Saint-Esprit éclairer. Un dernier exemple, c'est quand Néhémie est arrivé devant les murailles de Jérusalem, elles étaient démolies, il y avait des gros problèmes. Mais Néhémie ne s'est pas dépêché. Il est resté 3 jours comme ça. Puis après, il a fait le tour la nuit, il est allé la nuit faire le tour des murailles, il a regardé tout ce qui n'allait pas. Et après, Dieu lui a donné cette force de dire, allez, levons-nous, rebâtissons. Il faut qu'il y ait l'accompagnement de l'Esprit de Dieu. Dans les choses de la vie, pour quelqu'un qui travaille dans une entreprise ou autre, qui a des responsabilités, lui, il se base sur sa sagesse, il se base sur son expérience. Il n'a rien à faire du choix de Dieu. Et pourtant, je pense qu'un chrétien aussi, dans certaines affaires, devrait mettre Dieu en question. Et c'est ainsi que son travail irait mieux et que ce serait un témoignage pour ceux de l'extérieur. Eh bien, écoutez, nous allons peut-être, si vous voulez, nous incliner, rester dans le silence, justement, quelques courts instants, et si quelqu'un a parlé au Seigneur et veut prier, qu'il le fasse afin que ce Jéricho puisse disparaître et qu'on puisse s'en emparer. Parce que dans Jéricho, il y avait des gens, il y avait des soldats, il y avait l'adversaire, il y avait tout ça. Eh bien, quand tout est tombé, ils sont allés à l'avant, ils se sont emparés de tout et ils ont pu s'emparer ensuite du pays de la promesse. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, tu vois, Seigneur, c'est tout simple. Il y a des moments où parfois nous restons bloqués, quelques heures, quelques jours, parfois des mois, par des Jérichos qui sont là.
qui nous paraissent imprenables, que nous essayons d'escalader, que nous essayons de démolir par nos propres forces, que nous essayons d'éviter. Nous voulons, Seigneur, avoir ce... Mais, Seigneur, nous voulons compter ce matin sur toi, sur ton esprit, sur les trompettes de l'esprit, afin de nous éclairer, et que nous puissions nous retrouver devant toi, dans le silence, dans l'écoute, et ensuite dans la louange, quand ton esprit nous y mène, tout naturellement, parce que, Seigneur, tu fais bien les choses. Seigneur, ce matin, tu veux nous encourager, tu veux débloquer certaines situations, tu veux faire tomber les murs des cœurs, que nous ayons simplement ce désir de faire comme Josué qui enlevait ses chaussures, car celui était saint, et nous, Seigneur, nous voulons nous mettre devant toi dans cette attitude humble et réceptive pour ta gloire et pour le bâtiment de ton règne, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.